ensemble consacré toute cette semaine au monde de l'art, en direct de la Maison de la Radio avec Benjamin Hue à la réalisation, Élise Leu à la technique, Oriane Delacroix, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc à la programmation, Laura Dutèche-Pérez et Marceau Vassy aujourd'hui pour la préparation. Bonjour à tous. Première à rouvrir, mi-mai, les galeries tentent de limiter la casse et de voir dans la crise l'opportunité d'un changement, la possibilité d'une remise en question de l'art et de son marché. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités, le galeriste Kamel Mennour, tout d'abord, de Londres à Paris. Il vient de rouvrir l'une de ses galeries avec une exposition intitulée « Et pour toi, c'est quoi le monde d'après ?» À l'année, il représente Daniel Buren, Anish Kapoor, Claude Lévesque, Tatiana Trouvé ou encore notre deuxième invité. Le photographe et plasticien Mohamed Bourouissa, auteur de la série Périphérique, puis exposé au Musée d'Art Moderne avec Urban Riders. Ils sont tous les deux avec nous jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Kamel Mennour.
Bonjour Olivia.
Ah, vous buvez de l'eau.
Absolument.
Et bonjour Mohamed Bourouissa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux à distance. On est encore contraints par la question sanitaire. Ça vaut pour l'art, les galeries, ça vaut aussi pour la radio. Mais on vous remercie d'être là avec nous et de pouvoir ouvrir cette discussion virtuelle. Vous vous connaissez bien tous les deux, je l'évoquais, parce que Kamel Mennour vous représente à l'année dans sa galerie. Mohamed Bourouissa, vous le photographe, le plasticien, qu'on a eu le plaisir de rencontrer autour de cette grande table à l'occasion de votre exposition Urban Riders, c'était au Musée d'Art Moderne de Paris en 2018. On vous a ensuite retrouvé aux rencontres d'Arles l'an passé avec l'exposition Libre-Échange, marchand, non marchand. Vous aviez présenté cette exposition au Monoprix de la ville d'Arles. L'une de vos galeries, Kamel Mennour, celle de la rue Saint-André des Arts, dans le 6e à Paris, propose une exposition intitulée « Et pour toi, c'est quoi le monde d'après ?» En mêlant des dessins d'enfants et des œuvres d'artistes, les bénéfices seront reversés à la Fondation Abbé Pierre et à l'hôpital Necker. Comment est né ce projet collectif? Qu'est-ce qui ressort aussi de ce dialogue entre œuvres d'artistes aux sensibilités très différentes et dessins d'enfants? Comment vous avez eu l'idée de mêler les deux?
En fait, c'est une exposition qui est née pendant le confinement. J'ai fait partie de toutes ces personnes qui sont restées dans un appartement avec mes enfants, ma femme et donc, les trois par semaine du confinement, j'ai pris 6-7 kilos à grignoter et à me dire que le monde était en train de s'écrouler. En tout cas, il y avait une telle soudaineté, une telle brutalité que je n'entendais pas, je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Je faisais partie de toutes ces personnes qui subissaient, sachant qu'on est 45 à la galerie, collaborateurs, une trentaine d'artistes, dont Mohamed, et que j'avais quotidiennement au téléphone, et je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avions deux expositions qui étaient prêtes à être installées la veille du confinement, donc tout, en fait, était en train de s'effondrer, et après ces 7 kilos et cette réflexion, ces insomnies, parce que j'ai eu plusieurs nuits à me réveiller, à me dire, mais qu'est-ce qui pouvait se passer? Quel serait le monde d'après? J'ai invité les artistes à communiquer au travers d'une petite vidéo un peu utopiste qui consistait en fait à s'envoyer des avions en papier, un peu comme ce qu'avaient fait les chorégraphes de l'Opéra de Paris. Et au fur et à mesure de cette vidéo qui était en train de se produire, d'exister, j'ai eu le sentiment que nous étions tous galeristes, artistes, industriels, politiques, migrants, sur la même ligne, vulnérables par rapport à ce traumatisme, à cette épidémie. Et j'ai eu envie d'inviter, puisque nous retombions dans une dimension en fait de l'enfance, finalement d'une sorte de balbutiement, j'ai eu envie, en voyant mes enfants constituer des collages, des dessins pendant toutes ces trois semaines, d'inviter des enfants. J'ai invité mes enfants, mais ensuite je m'étais dit que il fallait inviter tous les enfants. C'est Picasso qui disait que la difficulté, c'était de rester enfant quand on était adulte.
Alors à la maison, dans ces cours que vous avez pu donner à vos propres enfants, on imagine que vous vous êtes occupé du côté art plastique. Est-ce que vos enfants, par leur dessin, et tous les autres enfants qui ont été sollicités ou qui ont participé à cet appel à dessiner ce monde d'après, ont un regard finalement peut-être plus optimiste que les adultes?
Certainement, en tout cas, je le vois, on a reçu 1800 dessins, donc il y a une vraie appétence des enfants à répondre à cette question. Finalement, au début, c'était une sorte d'utopie, j'ai envoyé ça sur Instagram, donc j'ai prévenu mes artistes qui étaient supposément exposés, donc la veille du confinement, pour leur dire qu'on reporterait ces expositions. J'avais le sentiment qu'il me fallait réallumer l'interrupteur, puisque nous avions été smatchés par ce qui est arrivé, cette brutalité, je vous disais. Et donc, j'ai eu envie d'inviter comme ça, via les réseaux sociaux, via Instagram, les enfants en leur posant cette question, et pour toi, c'est quoi le monde d'après ? Et effectivement, on a reçu des propositions extrêmement positives, finalement. De la nature qui reprend ses droits, cette notion de la liberté, cette notion du déconfinement, de nager, de se promener dans les forêts, donc tout un tas de choses. Et finalement, c'est une sorte des trois salles qui composent la galerie de la rue Saint-André-des-Arts, une sorte de dazibao, une sorte de caisse de résonance comme ça, où les enfants hurlent leur envie de continuer à vivre dans un monde nouveau, mais en tout cas positivement ouvert à de nouvelles propositions.
Et vous, Mohamed Bourouissa, comment vous avez répondu à cette invitation faite par Kamel Mennour ? Quel dessin, peinture, œuvre avez-vous réalisé pour cette exposition de reprise ?
Alors moi j'ai fait deux choses. Premièrement, quand Kamel m'a invité pour faire la vidéo, la première vidéo que j'ai faite, je me suis dit qu'en fait le vrai problème, enfin en tout cas moi c'est plutôt la question économique qui nous revenait en plein visage, et que tout de suite je me suis dit bah s'il y a un avion, et si c'est un avion sur lequel on vole, c'est effectivement celui de l'argent et de l'économie qui s'écroule. Donc en fait moi dans ma vidéo ce qu'on voit c'est un avion qui m'arrive en plein œil, et quand j'ouvre cet avion, je tombe sur une sorte de papier écrasé où il y a une phrase de Nietzsche qui dit ce ne sont pas les doutes qui rendent fou, mais la certitude. Je crois, voilà. Donc ça, c'était la première invitation, effectivement, sur laquelle j'ai répondu. Je pense que beaucoup, en fait, je crois qu'on a beaucoup de certitudes, et qu'au final, ce sont ces certitudes qui nous mettent en doute par rapport à ce que l'on croit dans la société dans laquelle on est. Deuxième proposition, en fait, deuxième dessin, ce sont une sorte d'aquarelle, de tâches d'aquarelle, où en fait j'ai mélangé à la fois des phrases de rappeurs, par exemple une phrase de PNL qui dit « la misère est si belle » avec une phrase où qui dit que la volonté est sans but. Donc encore une phrase de Nietzsche. En ce moment, je suis un peu beaucoup dans Nietzsche parce que j'ai passé beaucoup de temps à écouter des choses autour de ça. Voilà un peu ma réflexion, la recherche dans laquelle j'étais aussi autour du confinement, et c'est la manière dont j'ai répondu à l'invitation.
Un mot sur les galeries, Mohamed Bourouissa, et notamment la vôtre, la galerie Kamel Mennour. Une galerie, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que c'est un peu plus qu'un lieu d'exposition ? Est-ce que c'est, ou est-ce que ça devrait devenir ou redevenir, dans cette période un peu charnière, un espace de dialogue entre les artistes, et le public ?
Je crois que effectivement les galeries en fait sont vouées effectivement à aider à les artistes à continuer à faire leur démarche d'artiste, de les aider à vivre aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que les galeries qu'on avait un peu mis de côté. Je pense que c'est que les artistes sont au cœur même de l'art, et qu'en fait la mécanique dans laquelle on était, la mécanique des foires, la mécanique des expositions et des ventes, des collectionneurs, des institutions, fait qu'en fait l'artiste devenait une sorte de personnage au second plan. Et les artistes, et je parle pas de moi particulièrement, et je crois que ce sont les artistes qui sont à même de comprendre ce que c'est que l'art. Et c'est vrai que le dialogue a été un peu interrompu, mais il est en train de reprendre, effectivement, parce qu'en fait on se rend compte que ce sont le sens des choses qu'on met qui est le plus important, plus même que qu'on a, voilà. Je crois que voilà, ça c'est ma réponse, oui. Voilà.
Un tiers des galeries, vous évoquiez les difficultés économiques, financières. Un tiers des galeries pourraient fermer dans les 12 prochains mois, des petites galeries, moins de 5 salariés souvent. Est-ce que pour vous, Kamel Mennour, comme l'a évoqué Mohamed Bourouissa, cette crise montre aussi les faiblesses du secteur, en gros ce qui tournait pas rond jusqu'ici?
Ben effectivement, c'est triste d'entendre que il se pourrait que 50% même des galeries, les petites galeries très 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 vulnérables par rapport à cette situation risquent de fermer. C'est terrible parce qu'aujourd'hui les galeries qui sont l'un des seuls lieux culturels gratuits puisque nous accueillons en fait 98-99% des gens qui visitent nos espaces pour observer, analyser, jouir des expositions qu'ils ont décidé de visiter. Mais c'est des endroits qui sont gratuits. Donc c'est finalement de la culture pour tout le monde. Mais il y a beaucoup, beaucoup moins de visiteurs qui viennent à la galerie depuis une douzaine d'années, 10, 15 ans même, je vous dirais. Pour répondre précisément à votre question, il y a eu en fait l'apparition de tous ces événements dont parlait Mohamed, toutes ces foires qui faisaient que les gens en fait se concentraient pour aller visiter des événements où il y avait le rassemblement de 200-300 galeries, donc à la foire de Bâle, à New York, à Hong Kong, et donc au détriment de la visite quotidienne des galeries. Ce qui fait que toutes ces petites galeries dont vous parliez sont extrêmement fragilisées par cette situation, puisque localement, c'est plus difficile d'accueillir les personnes.
Alors, les foires, justement, est-ce qu'elles vont continuer à donner le là? Ça, c'est une des questions qui se pose aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que dans l'immédiat, elles ont un bilan carbone très lourd. Elles attirent aussi énormément de monde par leur taille, leur envergure. Et dans les prochains mois, il sera compliqué physiquement pour les foires d'art contemporain d'avoir lieu. Art Paris, par exemple, qui devait prendre place début avril au Grand Palais, a conservé son édition, mais virtuelle, en ligne, une édition 100% numérique qui ouvrira au public dès le 27 mai, c'est-à-dire depuis hier. Ce mot sur les galeries, sur les foires et sur les galeries qui peut-être vont pouvoir donc retrouver, si elles arrivent à tenir, si elles arrivent à survivre à cette crise, un nouveau rôle, un nouvel espace. Qu'est-ce que vous disent vos artistes, Kamel Mennour? Est-ce qu'ils ont vécu ces 2-3 mois comme une traversée du désert, avec inquiétude? Où est-ce qu'ils ont, pour partie, créé, développé une vision aussi de ce moment que nous étions en train de vivre?
Mais je pense que tous les artistes, comme tout un chacun, tout le monde est fragilisé, tout le monde est extrêmement concerné par ce qu'on ne sait pas, ce que sera demain. Par contre, ce que je sais, et ça je suis certain, c'est que les fenêtres vers la vérité, ou en tout cas des possibilités, viendront de propositions, de projets d'artistes. Avec Mohamed, on s'est concerté dernièrement et on a décidé, alors que c'était absolument pas prévu juste avant le confinement, de proposer une exposition en septembre, alors que c'était absolument pas, c'était dans le cadre de conversation. Il est venu visiter après le déconfinement et il m'a parlé de nouveaux projets qu'il était en train, je vais pas trop en parler parce que on veut que ça soit, que les gens puissent avoir la primeur en septembre, mais ça sera une nouvelle proposition de ce qu'il a pu faire pendant ce confinement. Je vous disais juste avant de passer à l'antenne, là je suis en train de recevoir Buren, et on parle de quelque chose qui devrait avoir lieu pendant la FIAC en octobre avec un autre artiste, une sorte de dialogue, je ne peux pas trop en parler, mais voilà. Donc des choses sont en train d'arriver, de se proposer, et c'est très intéressant de voir ces artistes dans ces périodes de fêlure, de séisme en tout cas, proposer des projets extrêmement intéressants parce qu'ils sont contextualisés par rapport à une situation.
Alors Mohamed Bourouissa, vous n'avez pas entendu ce que vient de dire Kamel Mennour. J'allais quand même vous demander si vous, pendant cette période, vous avez continué à travailler, à créer pendant le confinement, voire à vendre des œuvres aussi, parce qu'il y a un moment, il faut bien aussi, quand on est un artiste, gagner sa vie. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui plutôt de documenter ce moment, ou au contraire d'aller creuser dans les recoins de l'imaginaire, de faire une autre proposition?
Écoutez, personnellement, j'ai essayé de produire le moins possible. C'est-à-dire que je produis des choses, mais très peu. J'ai pris le temps de réfléchir et surtout de lire aussi pas mal. parce que voilà, c'était un vrai moment de pause et qui moi m'a servi en tout cas à prendre le temps et à prendre du recul par rapport à la création, par rapport à la production, par rapport même à ma pratique personnelle, et puis aussi de regarder ce qui se passait autour de moi, parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui, et je le vois autour de moi, moi je fais partie des artistes privilégiés qui a la chance effectivement d'avoir une galerie forte qui me permet de tenir et de vivre. Mais il y a énormément d'artistes, je pense, qui sont pas du tout dans ce cas-là et qui vraiment sont vraiment dans des économies beaucoup plus réduites et qui se retrouvent voilà très très fragilisés. Voilà, donc le truc, c'est, moi j'avais déjà une pratique collaborative, j'essaye de continuer à avoir ce genre de pratique. J'ai d'autres artistes qui font des choses, il y a un très beau projet en ce moment de Nel Beloufa en ce moment, il y a des galeries qui essayent d'avoir des dimensions poreuses, je veux pas. Je vois ce qu'avait fait Perrotin aussi avec les autres galeries en les investissant. Je crois qu'en fait il y a des démarches autres qui essaient d'être plus poreuses et produire des choses comme ça. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Enfin moi je vois des artistes qui font ça et je crois que la dimension de rendre plus poreux, de collaborer, de construire des choses en commun, en pensant à ce que c'est que la redistribution. Ça voilà, ça c'est des questions moi qui m'intéressent aujourd'hui. Moi en tout cas. Dans ce temps-là que j'ai eu. Voilà.
Le partage et l'échange aussi. La galerie Perrotin, juste pour expliquer, qui est une autre grande galerie et qui a effectivement ouvert ses portes à d'autres plus petites galeries, plus fragiles en ce moment, essayer de créer un système solidaire entre galeristes pour passer la crise. Mohamed Bourouissa, je le disais, vous étiez l'an passé exposé aux rencontres de la photo d'Arles. C'était pas la première fois d'ailleurs. Là, le festival, les rencontres ont été annulées. Elles pourront pas se tenir cet été. Qu'est-ce que ça représente dans la vie d'un photographe, les rencontres photos d'Arles?
C'est une vraie visibilité, les rencontres d'Arles. Il faut savoir que ça a une dimension internationale super forte et que pour les photographes, c'est une manière d'être visible, aussi de pouvoir vendre leur travail, d'avoir des galeries qui les soutiennent, de pouvoir montrer leur travail, ou des démarches, des moments aussi de réflexion et d'échange aussi avec d'autres photographes. Et les rencontres d'Arles... le fait qu'elles vont pas être là cette année, surtout quand une ville pour Arles, qui est une ville effectivement où il y a à peu près une quarantaine de pourcents de chômeurs là-bas, ça c'est une manne économique qui va pas être présente, ça va être très difficile et pour le monde de la photographie, mais aussi pour la ville quoi. Donc je crois que ça va être très difficile. Moi, je sais que l'expérience que j'ai eue de cette exposition à Arles, par exemple quand je pense au Monoprix, tout d'un coup d'avoir dit je fais mon exposition au sein du Monoprix, je sais que ça allait produire un effet, que ça allait faire venir les gens, et je pense qu'aussi le Monoprix, comment ils ont conçu le truc en acceptant, c'est aussi que ça permettait de faire venir des gens, qu'ils achètent des choses, et donc de faire tourner une microéconomie à l'intérieur de la ville aussi, quoi. Donc là, je pense que ça va être très difficile. Après, peut-être qu'il y a d'autres solutions, d'autres manières de se réinventer. C'est-à-dire que il y a des plateformes, il y a des sites, on pourrait construire un festival virtuel. Il y a plein de possibilités autres. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver d'autres possibilités dans les lieux effectivement où on est contraint. Mmh. Voilà.
Mais vous l'évoquiez, la place, le rôle de l'argent revient souvent hein, dans vos travaux, dans vos photos, vos vidéos, la façon aussi dont l'argent structure nos échanges. Est-ce que vous pensez au fond que très vite, toute cette économie-là, tout redeviendra aussi comme avant, ou qu'on est maintenant prêt collectivement, capable de changer?
Franchement, je pense... Alors, je suis désolé, hein, j'espère vraiment, et c'est ce qui est beau dans les dessins avec les enfants, c'est qu'il y a une sorte d'espoir qui s'installe, et ça, c'est assez beau, parce que ça donne vraiment une énergie. Mais en tout cas, ce que j'en vois aujourd'hui, et la manière dont je vois les choses, j'ai l'impression que ça va être plus violent. Au contraire, que la mécanique capitaliste dans laquelle on est, en tout cas libérale, elle va être beaucoup plus violente, et ça se traduit aussi par un effet qui est celui de l'hyper-contrôle. Et on peut le voir au travers de notre téléphone, à la manière de l'ultra-surveillance. Si vous voulez, ça fait une sorte d'effet de boule de neige. En tout cas, je crois qu'il y a vraiment des choses qui vont se mettre en parallèle, d'autres propositions. Et oui, effectivement, il y a toujours de l'espoir dans les propositions qui sont là. Mais aussi, ça induit aussi des rapports beaucoup plus forts. On peut le voir dans le multiplication en ce moment des situations en banlieue, on le voit là largement. Là, il y a l'histoire de quelqu'un qui s'est fait qui fait tuer aux États-Unis. Et ça, c'est en fait, ça devient de plus en plus fréquent. Alors peut-être qu'il y a de plus en plus de visibilité à cause des réseaux, mais en tout cas, c'est très présent. Donc une sorte de répression de plus en plus forte, voilà.
Crispation et violence d'une certaine manière, comme vous l'évoquiez. On va écouter la parole d'un de vos autres artistes, Kamel Mennour. Vous le représentez à travers vos galeries. Il s'appelle Claude Lévesque. Sortir l'art des galeries, des musées, s'interroger sur la place de l'art aussi dans la ville et dans nos vies. Une parenthèse pour vous dire que c'est aussi le projet défendu par Jean Blaise qui signe cette année encore la programmation de la 4e édition d'un été au Havre, dont la saison est maintenue. Elle aura lieu du 11 juillet au 4 octobre. Une programmation tournée cette année vers la mer avec des artistes invités tels Stéphane Balkenhol, Fabien Mérel ou encore Claude Lévesque. On l'écoute sur l'utilité ou l'inutilité de l'art.
Moi j'aime bien que l'art sert à rien parce que tous les gens qui disent l'art va servir pour guider le monde, pour faire prendre conscience, enfin les gens qui veulent attribuer à l'art d'un seul coup une faculté, moi je dirais plutôt que ça sert à rien, quoi. De toute façon on sert à pas grand chose, mais dans cette faculté qu'on a d'être comme ça un peu à la marge de tout, c'est peut-être ce qui est le plus nécessaire. Moi, je déteste tout ce qui est art politique, tous les gens qui sont imbus d'actualité pour représenter. Moi, effectivement, c'est pour ça que je peux dire une phrase dérisoire, c'est que trop se donner de leçons, d'exercices dans sa représentation, ça nuit à ce qu'on donne aux autres, quoi. Je pense qu'il faut être vraiment libre. Et puis après, pour moi, l'échange est très important. C'est même complètement essentiel. Je peux pas me passer de l'échange avec les autres. Même si je les bouscule, même si j'ai envie de les faire tomber de la chaise. C'est important, l'échange.
Voilà, Mohamed Bourissa ne disait pas autre chose à l'instant, Kamel Mennour, cette importance de l'échange, surtout quand on voit tous ces mondes se crisper aujourd'hui, se replier. Comment remettre de l'échange le plus possible? Si vous dites, vous, le changement c'est maintenant, quelle est la première décision que vous pouvez prendre, même acter en rouvrant votre galerie pour faciliter ces échanges?
Bah, par exemple, ce qu'on vient d'envisager tous ensemble, les artistes et ses enfants, on a reçu des dessins qui venaient du monde entier. Hein. J'aurais jamais fait cette exposition s'il n'avait pas été la réponse à ce contexte et à cet événement qu'on a tous subi, vécu. Donc, entre autres, tout à l'heure, en écoutant Claude Lévesque, qui parlait d'échange ou en tout cas de dialogue, il va investir au Havre, dans le cadre de cette biennale, je crois que c'est une biennale de Jean Blaise, l'église Saint-Joseph, où il va conjuguer une proposition face à l'architecture de Perret, d'Auguste Perret, une installation qui va venir investir le lieu et traduire quelque chose qui est du cadre de la poésie, une pièce qui va s'appeler La tendresse des loups, sorte de linceul comme ça, composé de fleurs sublimes, j'ai vu les photos. Donc les artistes en tout cas répondent, en tout cas nous permettent d'entrevoir un monde autre, un monde nouveau. Et c'est ce qui est très intéressant. Moi, j'ai passé tout ce confinement à les questionner, à les encourager, les accompagner, à les entendre, les écouter. Parce que je pense que l'art permet en fait d'élever l'homme et nous permet de voir autrement, plus positivement, la difficulté dans laquelle nous allons tous être. Hein. Je suis extrêmement conscient de tout ce qui va se passer. Et ce qui est tout à fait inévitable au niveau social, parler de crispation, les difficultés, les pertes d'emploi, les pertes de contrôle, pertes de repères, les modifications de repères, d'automatisme. Mais je pense que les artistes sont extrêmement sensibles à tout ça et nous permettent de nous améliorer et de nous conduire, de réapprendre à marcher.
Vous appelez un soutien aujourd'hui, Kamel Mennour, un soutien de l'État, des mécènes, du marché, soutien aux artistes et aux lieux d'art.
En tout cas, on a eu des interventions extraordinaires de l'État qui ont permis à l'écosystème français, en tout cas, de pouvoir être soutenu de manière merveilleuse par le biais, en tout cas, de soutenir en tout cas les salariés avec le chômage partiel, ensuite avec les prêts que l'État garantit, les PGE, donc c'est assez extraordinaire, en tout cas d'essayer d'être soutenu, et c'est ce qu'a fait l'État là pour l'instant. Ensuite, maintenant, on va tous s'organiser, essayer, en tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes, mais je me dis tous les matins, il va falloir que j'essaie de me réinventer, de trouver de nouvelles trajectoires, de nouvelles manières. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, il n'y aurait pas toutes ces fois à l'étranger, on va travailler plus localement. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 espaces à Paris, et je m'étais constamment contraint de répondre à des propositions à New York, Hong Kong et autres. Et je pensais qu'il fallait être fort dans ma ville, fort dans mon pays, et ensuite naviguer au travers des biennales et des foires. Il n'y a plus de biennales et des foires. Je vais essayer d'être le plus présent et le plus actif pour mes artistes, pour l'art en France, et essayer de me réinventer.
Vous étiez attendu, Mohamed Bourguissa, à Sydney pour la Biennale. Est-ce que ça a été annulé? Est-ce que pour l'instant, votre installation peut voyager léger ou vous n'avez pas d'assurance que ça tienne?
En fait, la Biennale de Sydney, elle va réouvrir, elle a réouvert là, enfin, je crois qu'elle ouvre, elle réouvre là.
Mi-juin.
Donc, elle réouvre. Et je sais qu'ils vont la remettre en place. Je suis ravi parce que c'est une installation qui est très simple. Il y a très peu d'éléments. Elle est très minimale. Je sais qu'elle va repartir. En fait, en deux mots, c'est j'essaye de faire du son avec des plantes en récupérant le signal des plantes et créer une installation sonore à partir des signaux des plantes. Voilà, d'essayer de rentrer dans une sorte de communication. Et il y a tout un poème qui a été écrit autour de ça. Voilà.
Ça c'est nouveau. C'est plutôt vous quittez le bitume et vous allez écouter les autres formes de vivant où vous parlez.
Depuis la Biennale de Sydney, je travaille autour des plantes, et depuis surtout l'Algérie en fait, où j'ai eu la chance de rencontrer un jardinier dans l'hôpital psychiatrique de Blida. Et c'est vrai que de plus en plus, je me suis posé la question de la santé et du rapport entre l'homme et son environnement, effectivement, et dans le rapport des individus aux plantes aussi, effectivement, dans une démarche beaucoup plus écosophique qu'humaniste peut-être. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce projet, c'est un projet où j'essaie de rendre lisibles ces signaux électriques qui sont produits par les plantes au travers de petits boîtiers qui permettent de réinterpréter des rythmes, qui traduisent les signaux des plantes en rythme ou en son. Voilà. Et c'est une démarche que depuis 2017, maintenant ça fait bientôt 3-4 ans que je travaille là-dessus, sur ce rapport aux autres formes du vivant. Que simplement le rapport d'homme à homme.
Voilà. Merci.
D'humain à humain.
Merci beaucoup à vous, Mohamed Bourguissa, d'avoir été avec nous. On peut voir donc 2 de vos dessins, œuvres actuellement à la galerie Kamel Menour, en attendant cette exposition de rentrée qui présentera peut-être aussi sous une forme ou sous une autre cette installation Brutal Family Roots qui va voyager du côté de Sydney. Merci beaucoup à vous, Kamel Menour. Et pour toi, c'est quoi le monde d'après? Cette exposition convoquée, imaginée pendant le confinement, est à voir à la galerie de Kamel Menour, rue Saint-André-des-Arts à Paris, dans le 6e. C'est gratuit, bien sûr. Et vous pouvez acheter ces dessins d'enfants ou d'artistes, 100€ chacun. Tous les bénéfices iront à la Fondation Abbé Pierre et à l'hôpital Necker. Un grand merci à tous les deux.